Laura Bertaille, bonjour, bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour, je suis effectivement Laura Bertaille. Je me présente rapidement, je suis mariée, mère et grand-mère, et éducatrice à la vie. J'ai été amenée pendant de nombreuses années à faire l'éducation affective et sexuelle auprès des collégiens et lycéens. Aujourd'hui, je suis active au sein des AFC et nous avons élaboré un programme pour parler de sexualité aux enfants du primaire. Et nous avons aussi monté une formation pour les adultes qui veulent intervenir auprès des enfants sur ces sujets et qui s'appelle « Grandir et aimer ». Je suis aussi auteure avec Pascal Morinière d'un livre qui s'appelle « Lucas et Léa, le cours de la vie » qui traite du sujet pour répondre justement aux questions sur l'amour, la sexualité, la puberté, la transmission de la vie. Voilà, nous avons même produit une web-série qui répond par des petits films. C'est sur Internet, on peut visionner ça par YouTube ou sur le site des AFC pour des parents qui répondent aux questions des enfants sur la vie. Voilà, je vais vous parler du phénomène de la pornographie, un grand sujet. Et en quatre points, d'abord, il faut faire un état des lieux. Comment par Internet les enfants peuvent être victimes de la pornographie. Deuxièmement, les signes qui doivent alerter les parents, et puis avec des exemples et des réactions de jeunes qui ont subi une intrusion de pornographie dans leur petite tête et leur cœur. Ensuite, l'impact sur la personne, sur le développement du cerveau, sur la vie de l'enfant, du jeune. Et puis en quatrième point, comment parer et prévenir, et puis qu'est-ce que c'est qu'une bonne éducation à la sexualité, et il faut venir la faire tôt, justement, pour aider nos enfants. Voilà. Alors, nous devons bien sûr être alertés sur la véritable déferlante qu'est la pornographie sur nos têtes et sur celle de nos enfants. Elle touche de plus en plus en nombre et de plus en plus jeunes. Une enquête BFM TV de 2017 révélait que 10% des visiteurs de sites porno ont moins de 10 ans. Les moins de 10 ans font partie, consistent à 22% des réguliers à consulter. Ensuite, entre 10 et 14 ans, ils sont 36% à surfer sur la pornographie. Et puis, entre 15 et 18 ans, cela monte à 42%. Alors, il faut être bien conscient de l'ampleur de ce phénomène. Ce phénomène a commencé il y a dans les années dès 2000. Voilà. Tugdual Derville d'Alliance Vita disait « La pornographie fait partie du paysage et pour ne pas en voir, il faut faire preuve de volonté de s'en protéger. » Le pédopsychiatre Patrice Huer aussi, sollicité lors de procès de mineurs, déclare les parents doivent éduquer leur enfant à la rencontre inévitable avec des contenus inadaptés sur Internet. Et nous savons que la moitié des élèves de CM2, au moins, possèdent un portable qui est le vecteur principal de ces images nocives. Alors, aucun milieu n'est épargné. Il faut que nous sachions ça en tant que parents et que nos enfants soient à l'école privée comme publique. On ne peut pas dire « mon enfant ne tombera pas dessus » sur ces images. Je crois qu'il est beaucoup plus réaliste de dire « il y a plus de chances de tomber sur au moins une fois sur des images pornographiques que jamais. » Le tout étant de ne pas rester sidéré, scotché et d'entrer dans la consommation pornographique. La vision ponctuelle par accident, qui peut arriver même quand on cherche tout simplement un document sur Internet pour le travail scolaire. Heureusement, ce n'est pas le début de la pornodépendance. Alors, de toute manière, nous éduquons nos enfants dans un monde où Internet et les écrans sont incontournables et on ne va pas leur interdire l'accès. On ne peut pas non plus élever des enfants dans un vase clos à cause des dangers extérieurs. Ce n'est pas la solution, parce que pour son développement, tout être humain a besoin de rencontres avec les autres et avec ce qui est différent de son milieu. Et aidé par les parents, il va acquérir une ouverture d'esprit et en même temps un esprit critique pour se situer sur son chemin de vie qui est forcément social aussi. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit vivre toutes les expériences. Et la famille est le lieu justement où l'enfant doit trouver la protection, l'aide et les conseils pour son meilleur épanouissement, tel que le conçoivent ses parents, premiers et principaux éducateurs. Il y a Internet dans chaque foyer. Alors la première chose à faire est de mettre les contrôles parentaux et les codes d'accès sur le ou les ordinateurs à la maison et sur chaque portable aussi, y compris celui des parents. Si jamais un enfant ouvre le portable de ses parents, il ne faut pas qu'il ait accès à tout Internet. Alors, on a des très bons conseils qu'on peut trouver sur des sites, des conseils pour trouver les bons contrôles, les contrôles efficaces. Vous pouvez aller sur www.internetsanscrainte ou bien sur www.ensortir.fr, internetsanscrainte.fr aussi, tout attaché. Voilà. On peut se dire aussi pourquoi ceux qui n'ont pas 17 ans encore, eh bien pourquoi être connecté? On peut avoir un téléphone tout simple à 9 touches et puis avoir accès bien sûr à l'ordinateur en famille à la maison. Alors j'ai dit qu'on pouvait tomber sur ces images choquantes par hasard sans les rechercher, mais il nous faut aussi exercer quand même un discernement sur ce qui est regardable en général. Dans une école où il y avait des élèves de, j'étais avec des élèves de primaire à faire les séances grandir et aimer, des enfants très mignons, mais j'ai été très étonnée d'apprendre que l'un d'eux, avec l'accord de ses parents, regardait des séries de films extrêmement violents, pas pornographiques, mais très violents, c'est-à-dire qu'il regardait des scènes de tuerie. Et dans un autre établissement, d'ailleurs, un élève s'était ouvert du fait qu'en CM1, que son voisin de table lui racontait des scènes de crimes sanglants intolérables. Donc il y a des enfants qui ont sous leurs yeux des choses voilà, qui sont parfaitement inadaptées et nocives. Alors deuxième point, nos enfants sont effectivement des radars. Ils captent les paroles et les images de manière extrêmement, ils sont très sensibles. S'ils apprennent des choses, ils prennent tout. Et puis, ce qui permet de vraiment se lancer dans le développement, leur capacité d'apprentissage. Mais, et donc, on les forme et on les instruit, mais il faut savoir qu'ils sont perméables et imprimables, je dirais même. Alors, ils sont marqués aussi, bien sûr, par ce qui est négatif et ils peuvent être perturbés. Alors, bon, certains enfants verbalisent assez vite leur malaise, mais il ne faut pas compter à chaque, toujours là-dessus, hein. L'exemple cité plus haut, avant, je vous ai dit, cet enfant s'exprimait, mais il purgeait un peu ses images sanglantes en parlant à son voisin de table. Il vaut mieux remédier avant, effectivement, de contaminer les camarades de classe. Un professeur d'école me relatait à quel point sa classe était ingérable pendant 6 semaines après la rentrée. Et bon, il s'était dit que c'était peut-être une mauvaise année. Mais le malaise était très fort, il y avait des ricanements, des choses qui passaient sous cap, les regards étaient fuyants, et de temps en temps, elle entendait des mots très grossiers, des choses très crues. Et en fait, au bout de quelques semaines, justement, l'un d'eux a craqué en disant qu'il y avait des descriptions de pratiques sexuelles qui les mettaient à l'aise, et voilà. Donc ça se passe parce qu'il y a toujours un sentiment de honte. Et ça se passe généralement sous cap, même si les plus jeunes se le racontent entre eux, mais dans le dos des adultes, hein, ils savent que ce n'est pas bon. Et il faut savoir qu'il y a des harcèlements, des enfants mis de côté, parce que ou bien ils sont les seuls à ne pas avoir de portable, ou bien même il y en a qui sont mis de côté parce qu'ils ne vont pas consulter, comme leurs camarades, les sites pornographiques. C'est des faits vérifiés dont je vous parle, l'expérience. Voilà. Une maîtresse aussi, en primaire, s'était inquiétée d'une élève qui était d'habitude très attentionnée et qui devenait distraite et même anxieuse. Et elle a trouvé sur sa table des petits dessins parfaitement indécents. Et sachant que cette élève ne pouvait pas imaginer ça, alors elle l'a prise à part, elle l'a fait parler. Et en fait, c'est son voisin de table, encore une fois, qui lui passait des modèles de dessin en lui disant de les recopier, parce qu'il trouvait ça très marrant. Bon, la petite fille en était extrêmement malheureuse, mais là, elle s'est trouvée tout à fait soulagée d'avoir été entendue. Et bien sûr, tout ça a été arrêté. Alors, quels sont les signes chez nos enfants qui doivent alerter, les signes qui montrent qu'ils ont été, on va dire, contaminés, qu'ils ont vu des choses pour eux insupportables? Les symptômes de l'exposition aux images pornographiques sont les changements d'humeur. L'enfant devient bougon, il peut avoir le regard qui devient fuyant, il obéit moins, il y a des difficultés de concentration ou pour s'endormir, il peut avoir des cauchemars, colère subite. Ça peut aller même jusqu'à la baisse des notes en classe. En fait, c'est tristesse et angoisse qui s'installent. On peut entendre, il faut avoir l'oreille un peu fine hein, quand on est parent ou éducateur, on peut entendre des expressions très crues que les enfants se disent entre eux, des grossièretés énormes, et en fait, il faut pas tomber tout de suite sur l'enfant en disant, en le grondant, voilà, ça se fait pas, ça se dit pas, mais il faut plutôt prendre l'enfant à part en lui disant, mais où est-ce que tu as entendu ça? D'où ça vient? Parce qu'en fait, les enfants n'inventent pas ces laideurs. Hein. On va chercher la source pour décontaminer plus efficacement. Alors bien sûr, il existe carrément les cas flagrants où des enfants suggèrent ou miment même des pratiques et attouchements sexuels. Ils les miment ou ils les mettent en pratique. Il y a eu comme ça un gros scandale au Collège Montaigne à Paris. Enfin, une belle boîte, mais ça ne veut rien dire. Dans un coin vers les toilettes, les surveillants ont découvert que, en fait, ils mettaient en pratique ce qu'ils avaient vu dans des films. Alors, il nous faut observer, rester au contact et dialoguer, c'est la meilleure protection. Marie Choquet, chercheure à l'INSERM, nous dit « Les jeunes, entourés par leurs parents et qui bénéficient d'une liberté de parole chez eux, et qui sont formés à l'esprit critique, prennent beaucoup plus de distance par rapport à la pornographie. À la base, il y a un fort sentiment de honte et de culpabilité, et c'est pareil aussi chez un adulte hein, qui consomme de la pornographie. Hein. Donc on ne peut pas toujours compter sur le fait que l'enfant ou le jeune va se confier, parce que Patrice Huert, le pédopsychiatre dont j'étais avant, nous dit « si l'enfant n'est pas averti que ces images existent et qu'il tombe, entre guillemets, dessus, il se sent honteux comme quelqu'un qui est témoin d'une violence sans réagir et la honte pousse au silence parce qu'il se sent coupable alors qu'il est victime. » L'âge avançant, effectivement, ça devient plus problématique parce que l'adolescent qui est pubère, il est curieux sur le plan de la sexualité, et en même temps conscient de l'aspect intime du jardin secret qu'il veut se ménager. Et il va être tenté de s'isoler, il sera dans la honte forcément, et il va s'isoler dans la consommation d'images pornographiques s'il reste sidéré dessus. C'est le début de l'enfermement, je dirais même de l'enfer. Et ça excite la pulsion parce qu'il faut savoir que le but des films pornographiques est de mener à la pratique de la masturbation. Dès l'année 2010, hein, c'est ancien peut-être, mais la protection judiciaire constatait une augmentation de 50% des agressions sexuelles et viols par des mineurs. Effectivement, des jeunes passent à l'acte en se disant qu'ils vont se purger de ces sales idées qu'ils ont dans le cerveau. Voilà, je passe donc pour vous dire justement l'impact sur le cerveau et voilà, dont il faut être conscient, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, le cœur et l'imaginaire de l'enfant. Alors Thérèse Argaud, qui a écrit « Une jeunesse sexuellement libérée ou presque », dit que la pornographie chez l'enfant constitue un viol de l'imaginaire. En effet, le vécu intérieur est un choc fort qui le violente quant au secret qu'il porte de manière inconsciente sur l'origine de sa conception entre ses géniteurs. Et elle ne doit pas être dévoilée. On le sait depuis toujours au point de vue psychologique, il y a des choses qui ne se dévoilent pas visuellement. La violence est donc, avec la pornographie, directement liée au sexe. Et ça, ça fait vraiment peur. Avec en plus l'image dégradée et maltraitée de la femme, pour l'enfant, c'est sa mère. S'il ne peut confier le choc rapidement d'avoir vu cette image, et s'il continue à en regarder, c'est un poison, c'est une obsession. Dans sa tête, dans le cerveau, l'enfant, le jeune, voit défiler ces images comme des pop-up sur les écrans, dès la moindre allusion à l'amour, ou bien lorsqu'il voit un geste de tendresse entre des époux, eh bien ça va défiler dans sa tête, ces images, vraiment, c'est une pollution. Il faut savoir que le cerveau n'a pas fini de se construire jusqu'à 20 ans. Il est très malléable, on n'a pas acquis tous ses réflexes de défense, ni un esprit critique mature. Et des médecins alertent sur le fait que la vision régulière d'images pornographiques nuit au développement psychique mental de l'enfant. Cela provoque même des régressions cérébrales. Avec le déclenchement de niveaux anormalement élevés de sécrétion de dopamine, et il y a des perturbations qui amènent des dépressions. Je crois que je vais arrêter les descriptions, mais on sait scientifiquement qu'il y a des dommages vraiment au niveau cérébral. Avec surtout, bien sûr, chez ceux qui sont porno-dépendants. Voilà. Pour l'enfant, le jeune, il faut savoir qu'il est crédule. Et quand le visionnage de ces images se fait avant 13 ans, il ou elle croit que c'est cela qui se fait, dit un spécialiste canadien. Et professeur Nizan dit pareil, ce qui se voit, c'est ce qui se fait. Il faut savoir pour vos enfants qui rentrent au collège, il faut les prévenir, parce que il y aura des propositions, peut-être même tarifées, de services sexuels entre certains élèves. Les professeurs et directeurs de collège ne sont pas étonnés de voir ce trafic entre eux. Tu me fais mon devoir de maths contre tel petit service du genre d'une fellation. Voilà. Il y a aussi la puissance de la sidération, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, suggérée. Elle est peut-être plus forte chez le garçon, pour qui l'excitation sexuelle passe beaucoup par la vue. D'ailleurs, il y a moins de jeunes filles qui regardent les films pornographiques, il y en a quand même. Un garçon dans une classe de CM2E m'a témoigné du fait qu'il savait que c'était mauvais pour lui et donc qu'il renonçait à regarder les films et images. Mais tous les jours, tous les jours qu'il y pensait parce qu'il avait vraiment envie de recommencer. Voilà, sans vous parler non plus de la déconnexion avec la réalité. La pornographie, les images pornographiques colportent un véritable mensonge sur la vie, sur l'amour bien sûr, sur les performances qui soi-disant qui pourraient être une image de bonheur. Le mensonge sur le consentement des acteurs qui vivent une véritable misère humaine et morale. C'est un mensonge aussi absolu sur la relation amoureuse. La relation est juste tuée, le corps dissocié de l'être n'est plus qu'utilitaire et tombe dans l'esclavage. Je vous dis le témoignage d'un homme anciennement porno-dépendant qui témoigne sur le site Stop Porn en disant « La porno-dépendance s'attaque autant à l'esprit qu'au corps. Elle constitue une prison psychologique. En fait, la vie est rendue triste et laide, et le sexe aussi. » J'en viens à mon quatrième point. Nous sommes faits, nous les êtres humains, pour la relation. Elle est vitale. Et la sexualité est relationnelle. Les hormones sexuelles ne servent pas uniquement à la reproduction, mais contribuent à l'énergie que nous mettons au travail, à inventer des choses et à gravir les montagnes. Nos relations d'amour donnent le vrai sens de nos vies humaines. Et a fortiori chez le petit homme, qui ne peut se comprendre et comprendre la vie s'il n'a pas de vie relationnelle forte, ni l'expérience de la confiance dans l'amour. Alors je vous disais qu'en se connectant sur la pornographie, on se déconnecte de cette spécificité humaine, relationnelle, On achève la dissociation de l'esprit, du corps, de l'esprit, du corps et du cœur. Et elle rend la personne finalement incapable de rencontre, donc finalement de bonheur. Alors nous pouvons protéger et conseiller nos jeunes face à la pornographie. Une des meilleures façons est de faire une éducation, de faire leur éducation relationnelle, affective et sexuelle. Délivrer une bonne nouvelle sur l'amour, la sexualité, le corps, la puberté, la transmission de la vie. Et la véritable prévention pour lutter contre ces fausses représentations qui sont colportées dans notre société, parce que bon, il n'y a pas que la pornographie, il y a aussi une ambiance générale très érotisée avec les magazines, les lectures ou les publicités. Et donc, les parents doivent faire très tôt, au sein de la famille, l'éducation affective et sexuelle de leurs enfants, en fait, l'éducation à la sexualité. Et ça se fait très tôt, d'ailleurs, de toute manière, on le fait en famille tout naturellement, du fait de vivre ensemble et il y a des choses qui passent, verbales ou non, par rapport à des attitudes, par rapport au corps, et voilà. Alors, après, il faut expliciter d'où vient la vie, comment un homme et une femme peuvent s'aimer au point de fonder une famille. Et on va utiliser les mots adéquats à chaque âge. Les parents, quand ils parlent de ce sujet, ne s'impliquent jamais. Ils ne parlent pas de leur intimité. Au contraire, ce n'est pas ça du tout qu'il faut faire. On parle de l'homme et de la femme et on parle à la troisième personne. En fait, ensemble, on admire comment l'homme et la femme, ou le garçon et la fille, sont bien constitués dans leur corps et dans leur appareil génital en vue d'un grand bonheur futur. Alors, constater ensemble que le corps, dans ses parties intimes aussi, est très respectable, formidablement organisé, c'est une bonne nouvelle pour l'enfant. Il va adhérer à ce message pour la bonne raison qu'en fait, ça rejoint ce qu'il porte tout au fond de son cœur. En fait, chaque être humain porte cette vérité de l'amour tout au fond. Et il sait que, voilà, on rejoint ce qu'il sait tout au fond. Je suis fait pour être aimé et aimé, vraiment. Quand on fait cette annonce sur le bien fondé de sa vie et voilà, qu'il est destiné à aimer vraiment un jour, eh bien, il en est heureux parce que ça donne sens à sa vie. Et ça le rassure sur son développement, sur son identité sexuelle, son avenir. Il va pouvoir grandir en confiance. Et d'autre part, en étant ainsi conforté, on l'a vu par expérience, il se protège mieux des influences néfastes et des mensonges. Et on a vu des enfants refuser de prendre part à des conversations indécentes sur la sexualité, parce que des enfants qui s'amusent à raconter, bien sûr, ils racontent des histoires pas très nettes sur la sexualité parce que les pauvres, ils ont entendu ça. Eh bien, on a vu réagir des enfants qui disaient « Mais écoutez, vous n'avez rien compris à l'amour, c'est pas du tout ça. » Et moi, je vais vous… Voilà, ils ont pu témoigner de ce en quoi ils croyaient et qui les avaient vraiment structurés déjà dès le très jeune âge. Quand je dis très jeune, un enfant de 7 ans peut tout savoir sur la transmission de la vie. Alors, il est important aussi de prononcer le mot pornographie pour prévenir que ce sont des images très laides qu'on leur proposera peut-être un jour de regarder sur un écran. Et voilà, on peut s'appuyer, on va dire à l'enfant qu'il s'appuie sur son sentiment de gêne et de peur, parce que, voilà, par exemple, un jour, on pourra peut-être te proposer de regarder des images de personnes, d'hommes et de femmes nus, qui ont l'air de faire des choses pas possibles, et puis ça va te faire peur et te gêner. Eh bien, fie-toi à ce sentiment, ça veut dire que c'est très mauvais, c'est pas bon pour toi, ça n'a rien à voir avec l'amour, et tu refuses de regarder ces images, tu dis non. Et en fait, en disant ça à l'enfant, eh bien, on crée une alerte dans son cerveau, de manière à ce qu'il ne reste pas scotché à ces images qui ont toujours cet aspect assez fascinant. Ils seront capables de dire non. Et ensuite, ils iront le reporter à un adulte pour que, justement, il n'y ait pas de trafic d'images entre les enfants. Il y en a qui ne sont pas prévenus et donc il faut s'entraider les uns les autres pour résister. De la bouche même d'un enfant victime de pornographie, il a dit à ses parents « Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit que c'était ça, ces images, que c'était mauvais, et la pornographie, que ça peut faire mal à ce point-là hein ?» Et il faut savoir qu'effectivement, l'enfant, les parents peuvent parler, l'enfant croit en la parole des parents, elle est sacrée. La première parole, elle doit venir d'eux. Voilà, je passe sur deux autres points avant de finir. Le point important, c'est la pudeur en famille. La pudeur est assez malmenée. Autant on peut expliquer verbalement la sexualité et même l'acte conjugal, mais jamais dévoiler visuellement. Il y a peut-être dans les familles un manque de pudeur quelquefois, on est très détendu par rapport à la nudité. Il faut savoir que ça ne rend pas vraiment service aux enfants. Voilà. Mais le secret est nécessaire pour que l'enfant grandisse et s'épanouisse. Parce que sinon, pour lui, ça devient une confusion des générations. Et c'est l'apprentissage du respect de soi-même et du corps, de l'intimité des autres. Voilà, on n'a pas à avoir un regard sur l'intimité des autres. Voilà, on ne va pas éveiller de manière déplacée une sensualité dans la famille. Et ce droit à l'intimité, visuellement protégé, permet à l'enfant de trouver sa place et de pouvoir grandir et plus tard choisir librement l'amour et de pouvoir engendrer ensuite. Et puis, bien sûr, il y a le point essentiel de l'exemplarité. Sommes-nous cohérents dans notre façon de vivre et avec les valeurs que nous prônons? Si nous regardons nous-mêmes des images pornographiques, si nous nous complaisons dans des plaisanteries égrillardes, et si nous manquons de respect entre membres de la famille, cela aura une influence négative sur le comportement de nos enfants. Alors, sans être des saints, essayons au moins de présenter un témoignage de vie crédible. Et puis, n'ayons pas peur de dire sans crispation la vérité, en s'appuyant sur l'aspiration du beau, du bien, du vrai dans le cœur de chacun, en rejoignant cette soif qui est en eux et aussi l'Esprit Saint présent en eux qui va les guider. Voilà, il y a aussi la règle des 3, 6, 9, 12, 17 ans. Pas d'écran, pas de télévision avant 3 ans, pas de console de jeu avant 6 ans, pas d'internet accompagné à partir de 9 ans, pas d'internet seul avant 12 ans et pas d'ordinateur dans sa chambre avant 17 ans. On peut consulter aussi, on peut être aidé, il y a plein de moyens d'être aidé, il y a des livrets qui sont parus, des livres et des livrets, entre autres je vous dis livrets parce qu'il y a aux AFC nous avons sorti 12 questions à se poser avant d'aller sur les réseaux sociaux. Vous avez les sites dont je vous avais parlé précédemment pour avoir des bons conseils. Voilà, on peut trouver de l'aide en différents endroits. Et puis, ne pas hésiter à demander de l'aide. Voilà, aux AFC, on peut s'adresser pour avoir, si vous voulez, une bibliographie ou voilà, différentes choses à droite et à gauche. On a des ressources maintenant. Et voilà ce que je voulais vous dire essentiellement sur ce grand sujet.
Alors, pour terminer, peut-être une question. Donc, vous avez donné des conseils pour les parents, mais lorsque une personne extérieure à la famille constate un dérèglement, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais prendre un exemple concret qui m'a été raconté par une employée de bibliothèque. Donc, il y avait bien sûr une partie, la partie enfant et adulte était bien séparée. Néanmoins, dans la partie enfant, il y avait des ouvrages pour les plus petits, pour ensuite un peu plus grands, etc. Et il y avait un enfant de 5 ans qui voulait un livre qui n'était pas de son âge. Et donc la mère était à côté et l'employé de bibliothèque a dit, mais ça, c'est pas de ton âge, c'est pour les plus grands. Et l'enfant a rétorqué à cette dame, ah ben si je peux, de toute façon je regarde les pornos avec papa.
Oui,
Et
oui,
la
oui.
mère ne disait rien, elle avait l'air de trouver ça tout à fait normal. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on constate ce genre de dérèglement? Est-ce qu'on est en droit de dire quelque chose? Est-ce qu'il y a des signalements à faire? Ça peut être aussi le cas de professeurs qui constatent ce type
Oui.
de signes.
Oui, il y a des professeurs qui constatent effectivement qu'il y a des parents qui, les films pornographiques, pour eux, sont une manière d'éduquer à la sexualité leurs enfants. Donc, quand on est extérieur à par exemple, cette maman qui avait l'air de rien dire et de trouver normal que son enfant demande un livre inadéquat, eh bien, moi, j'allais dire, on ne peut pas. Enfin, on ne va pas se mettre à signaler les uns et les autres. Voilà, ce sont des adultes qui, malheureusement, n'ont pas un discernement sur ces sujets-là. Voilà, je me vois mal en disant, Madame, vous vous trompez dans l'éducation de votre enfant, c'est ennuyeux. Le parent est responsable, il a autorité sur son enfant. Maintenant, voilà, ce n'est pas, y a pas de loi par rapport à ça. On peut pas. C'est ennuyeux, mais c'est vrai qu'il y a des adultes qui ne voient pas le problème. Ou alors cette femme, si elle a un mari qui est pornodépendant, elle est peut-être malgré elle, elle n'est pas d'accord avec ça. Mais elle est prise dans une misère finalement et porter de l'aide à ces personnes, personnellement, je ne vois pas, à part d'essayer de prendre à part et de parler ensemble sur le sujet, effectivement, on peut dire, mais voilà, si quelqu'un passe, mais quand on ne se connaît pas, c'est très difficile. Moi, je dirais qu'une amie, enfin une amie d'amis, par exemple, qui manquerait de repères. J'essaierai de lui parler, lui dire, mais tu penses que c'est vraiment, tu sais, j'ai entendu parler des dégâts qui arrivent effectivement dans la vie des enfants qui ont vu ces images, parce qu'il y a des traumatismes. Mais voilà, on n'est pas là pour se faire la police les uns aux autres, c'est très ennuyeux. Et la personne de la bibliothèque avait tout à fait raison. De toute manière, sur les bouquins, ils sont adaptés à tel âge ou à tel âge.
Donc, l'employé de bibliothèque peut agir simplement en disant non, là, ce livre-là, je ne le vous le prête pas pour votre enfant parce que ce n'est pas de son âge.
Ah ben, je pense qu'elle peut effectivement, en tant que responsable de cette bibliothèque, oui, elle doit être capable de refuser. Je ne sais pas comment ça fonctionne, la bibliothèque, mais enfin, certainement, je pense qu'elle peut, mais c'est tout ce qu'on peut faire hein, dans ce cas-là. Parce qu'il y a des adultes qui sont effectivement sur le sujet complètement à côté de la plaque.
D'où l'importance de l'information et de la formation pour que justement les gens prennent conscience de ce problème.
Oui, voilà, il faut vraiment informer beaucoup. Et bon, on devient. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. Il y a une prise de conscience. Hein. Depuis quelques années, dans le gouvernement, il y a des associations qui montent vraiment au créneau depuis un moment, dont les AFC, bien sûr, et des associations qui commencent à être entendues auprès de la justice, hein, du ministère de la Justice. Et ils leur demandent d'examiner sérieusement et de contraindre les fournisseurs d'accès pour bloquer la diffusion la diffusion des sites qui proposent les images pornographiques et bloquer l'accès aux mineurs de manière efficace. Parce que pour l'instant, beaucoup de mineurs savent détourner les contrôles pour entrer quand même et consommer de la pornographie. Et quand on demande de payer un abonnement de films pornographiques avec une carte bancaire, bah, ils mettent simplement, ils cochent la case « Je suis majeur ». Et donc ça, auprès des tribunaux, c'est en train de monter. Et ça semble avancer quand même, hein. Mais il faut que la population en général soit de plus en plus avertie des dégâts effectifs et des traumatismes profonds dans la jeunesse à cause de ce fléau. C'est vraiment très, très, très grave.
Alors, merci beaucoup, Laura Bertaille, pour ce temps que vous nous avez accordé aujourd'hui pour parler de ce sujet important. Est-ce que vous souhaitez ajouter un message pour les auditeurs de Radio Maria?
Eh bien, écoutez, voilà, j'envoie le message que n'ayons pas peur de se baser sur la notion que l'enfant, on peut lui donner confiance pour grandir dans une belle nouvelle sur la sexualité. Et c'est cela qu'il protégera le mieux et qu'il l'aidera à grandir de manière enthousiaste vers sa vie d'adulte dans l'avenir.
Merci beaucoup, Laura Bertaille. À très bientôt.
Je vous en prie. Au
Au
revoir.
revoir.